écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel et à Mans, en Côte d'Ivoire, 22h à Épinay-sur-Seine, la ville de notre invité, Alexis Onesta. Et le journal est présenté par Charlotte Derouin. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir Claudie, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron annonce une réunion la semaine prochaine à Paris des chefs d'état-major des États prêts à garantir une future paix en Ukraine. Déclaration ce soir du président français. Déclaration qui intervient alors que les États-Unis ont annoncé ce mercredi mettre en pause le renseignement militaire qui était apporté à Kiev. En Israël, les services de sécurité intérieure reconnaissent avoir échoué à empêcher l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Dans un rapport, le Shin Bet dénonce également certaines décisions politiques. Explications à suivre. Et puis du football, PSG, Liverpool, un match que Cédric De Oliveira suit pour nous depuis le Stade de France. Et pour le moment, 0-0 à la mi-temps. La menace russe est là, elle nous touche sans connaître de frontières. Ce sont les mots ce soir d'Emmanuel Macron. Le président français s'exprimait à la télévision sur la guerre en Ukraine et plus largement sur la situation sécuritaire en Europe. Déclaration qui intervient à la veille d'un Conseil européen extraordinaire qui se tiendra demain jeudi. Une allocution prononcée sur un ton inhabituel de la part d'Emmanuel Macron, comme le détaille Ulrich Buna, analyste géopolitique et chercheur associé chez Open Diplomacy.
Je pense qu'il est ce pessimisme, effectivement, et ce ton grave, il est le reflet de deux choses. Le premier, c'est un reflet assez réaliste de la situation internationale actuelle, où le principal, on va dire, sponsor de l'état de droit international et une garantie de sécurité européenne, les États-Unis, ne sont plus un allié fiable. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, hein, il n'est plus certain finalement que les Américains seraient là pour défendre l'Ukraine, voire même au-delà l'Europe. Donc ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude en tous les cas. Et puis je pense que ça, c'est aussi une façon de coller un petit peu à l'atmosphère générale des Français qui, je pense, me semble-t-il, beaucoup de Français ont été véritablement choqués et inquiétés en fait par ce qui s'est passé vendredi à la Maison-Blanche où Donald Trump a véritablement traité Volodymyr Zelensky comme le dernier des vauriens alors qu'il était censé être un allié de l'Ukraine. Donc effectivement, il y a eu une montée d'inquiétude et je pense que l'objectif de ce ton grave, c'était justement déjà de coller un petit peu à la réalité et aussi de dire que finalement le chef de l'État est a tout à fait conscience de ce qui se passe et peut-être aussi une façon de rassurer en creux un peu les Français pour dire grosso modo qu'il est à la barre dans une situation un petit peu grave.
Ulrich Buna, analyste géopolitique, joint par Romain Le Maresquier. Le président français qui a aussi annoncé une réunion la semaine prochaine à Paris des chefs d'état-major des États prêts à garantir une future paix en Ukraine. Cette déclaration d'Emmanuel Macron, elle intervient aussi alors que les États-Unis ont annoncé mettre en pause ce mercredi le partage de renseignements avec Kiev. Après le gel de l'aide militaire américaine, les Ukrainiens ne pourront donc plus compter sur le renseignement spatial pour faire face aux Russes dans les combats. Franck Alexandre.
Il y avait l'apport de matériel stratégique pour la défense solaire et l'artillerie longue portée, mais l'aide américaine dans le domaine du renseignement était tout aussi cruciale, structurante pour penser la guerre, orienter les manœuvres et planifier les ciblages en offrant une image précise du champ de bataille. Et pour ce faire, les satellites géostationnaires constituent la pierre angulaire du renseignement militaire. Positionnés dans l'espace à 36 000 km, ces satellites tournent à la même vitesse que la Terre et offrent des informations en temps réel sur une zone fixe prédéfinie. Des images, mais également des indications sur le trafic électromagnétique. Quand ce trafic s'accroît, cela donne des indications sur les intentions de l'adversaire. Surtout, les satellites américains ont des capacités importantes d'identification d'activités au sol et sur les bases aériennes, une technologie également maîtrisée par les Européens, mais pas dans les mêmes proportions. Reste que les satellites ne sont pas la seule source. Les Ukrainiens aussi savent acquérir du renseignement grâce par exemple au radar, mais c'est la précieuse expertise américaine qui va désormais manquer.
Précision signée Franck Alexandre. Et après cette annonce, Kiev a indiqué de son côté travailler à de nouveaux pourparlers avec Washington. Amnesty International demande une enquête pour crimes de guerre sur les attaques israéliennes contre le secteur de la santé au Liban. Attaques contre des ambulances, des secouristes et des établissements de santé lors de la récente guerre entre Israël et le Hezbollah libanais. L'armée israélienne a accusé le mouvement mouvements chiites, d'utiliser des ambulances du Comité islamique de la santé, une association qui lui est affiliée, pour transporter des combattants et des armes, ce que le Hezbollah dément. En Israël, après l'armée, il y a quelques jours, c'est maintenant l'agence israélienne de sécurité intérieure qui reconnaît avoir échoué à empêcher l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Dans son rapport, le Shin Bet pointe aussi directement la responsabilité des autorités politiques du pays, Aurélien Verdier.
C'est la première fois que la responsabilité de Benjamin Netanyahou est citée aussi directement par un rapport d'enquête officiel. Le chef du Shin Bet, Ronan Bar, a tout d'abord reconnu que si ses équipes avaient agi différemment dans les années et la nuit précédant le 7 octobre, le massacre aurait pu être évité. Mais le rapport dénonce également une politique du silence côté israélien qui aurait sciemment laissé le Qatar financer l'aile militaire du Hamas. Le Shin Bet dit s'être opposé à plusieurs reprises à la politique de Benjamin Netanyahou consistant à diviser pour mieux régner, c'est-à-dire à encourager la division entre le Hamas à Gaza et l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. En février 2023, le Shin Bet a également averti que les provocations israéliennes sur le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées où l'interdiction des prières juives est fréquemment bafouée et le durcissement des conditions de détention des prisonniers palestiniens qui ont commencé sous le gouvernement actuel de Netanyahou pourraient inciter le Hamas à lancer une opération. Tout comme l'armée, l'agence israélienne de sécurité intérieure affirme dans son rapport que seule une commission d'enquête d'État pourra permettre de connaître toute la vérité. Le gouvernement israélien repousse cette idée depuis des mois. Oriane Verdier, Jérusalem, RFI.
En Indonésie, les autorités tentent de réduire l'intensité des pluies qui s'abattent sur la capitale. De fortes précipitations ont commencé à tomber lundi sur Jakarta et ses environs. Une fillette de 3 ans est décédée et certains quartiers de la métropole sont paralysés. Les autorités ont donc commencé à ensemencer les nuages. Cette technique consiste à injecter du sel ou des produits chimiques dans les nuages pour qu'ils pleuvent, oui, mais pas sur les zones critiques déjà touchés par des inondations. En Argentine, plus de 600 000 foyers privés d'électricité dans la région de Buenos Aires. La compagnie électrique explique qu'un incident s'est produit sur une ligne à haute tension, une coupure qui intervient alors que Buenos Aires a été placée en état d'alerte vigilance pour canicule, vigilance jaune, avec une sensation thermique ressentie à 44 degrés, ce qui pousse de nombreux habitants dans les rues à la recherche de fraîcheur. En Europe, au Portugal, le Premier ministre va demander la confiance du Parlement. Luis Montenegro a surmonté ce mercredi une motion de censure déposée après des soupçons de conflit d'intérêts concernant une société détenue par sa femme et ses enfants. Mais il a toutefois fait part de sa volonté de demander un vote de confiance malgré tout. S'il ne l'obtient pas, cela pourrait ouvrir la voie à des élections anticipées. L'état du pape François toujours stationné. Le souverain pontife célèbre le début du carême à l'hôpital où il est soigné depuis 20 jours pour une double pneumonie. Le Vatican indique qu'il a participé au rite de la bénédiction des cendres depuis sa chambre d'hôpital. Il continue à recevoir de l'oxygène à très haut débit. Du football, à présent avec la suite des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Au programme ce soir, en cours en ce moment, PSG-Liverpool, que vous suivez pour nous au Parc des Princes, Cédric De Oliveira. C'est le début de la seconde partie.
Oui, début de la deuxième période. On joue la 51e minute et pour l'instant à 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Et honnêtement, eh bien, sur ce qu'on a vu en première période, eh bien, ce n'est pas mérité pour les Parisiens qui ont archi dominé les 45 premières minutes avec plusieurs occasions pour le Paris Saint-Germain qui est tombé sur un gardien de Liverpool, Alisson, qui est dans un grand soir, qui a notamment arrêté des frappes de Dembélé et de Kvaratskhelia, qu'il y a 12 tirs, ce ne sont que des statistiques, mais elles sont éloquentes. 12 tirs, 5 cadrés pour Paris, une seule frappe pour les Reds qui n'ont même pas cadré leur tentative. Le PSG qui a marqué aussi un but par l'intermédiaire de ce même Kvaratskhelia, mais le but du Géorgien a été refusé pour hors-jeu après l'utilisation de la vidéo. Il était hors-jeu du talon, c'est-à-dire de quelques centimètres, suffisant en tout cas pour annuler ce but. Il faudra que les joueurs de Luis Enrique soient plus précis ici au Parc des Princes pour ne pas avoir trop de regrets. Pour l'instant donc, 0-0.
Merci Cédric De Oliveira.